Bonjour. Il y en aurait probablement quelques-uns encore parmi vous qui pourraient partager ces éléments que je vais aborder aujourd'hui. J'ai beaucoup de plaisir à le faire ce matin avec vous. Je me sens bien accueilli. C'est un plaisir d'être là avec vous. Ça vous va si j'attaque direct? L'idée, c'est pas ce matin de donner toutes les solutions toutes faites. On a prié, on a demandé cette créativité de la part de Dieu pour justement, dans nos contextes respectifs, trouver les meilleures pistes pour vivre ce que le Seigneur aimerait. J'ai beaucoup aimé cet exposé, enfin cette entrée-matière de David par rapport aux rêves, le fait qu'on puisse être des porteurs de rêves aussi pour cette question du vécu intergénérationnel. Je vais simplement vous livrer ce matin quelques pistes, quelques éléments de réflexion qui vont, ou qui, j'espère, devraient vous permettre d'aller plus loin en réflexion, en Église, comme ça va être vécu tout à l'heure, mais aussi au-delà, dans les temps qui vont venir, dans les semaines, les mois qui vont venir, puissiez continuer à alimenter ces réflexions. Pourquoi les jeunes ont-ils de la peine? Oups là. Ouais, je peux continuer à lire. Pourquoi les jeunes ont-ils de la peine à rester dans nos églises? Et question subsidiaire, c'est un problème spirituel ou un problème culturel? J'ai mis des jolis effets autour, peut-être c'est ça qui nous trompe un petit peu là. Je vais voir la suite. Non, ça va, à peu près. On va faire un petit peu ce qu'on pourrait appeler un tour du proprio. On va faire un peu le tour de certains sujets, certaines facettes qui nous donneront certainement des bons arguments, des bonnes pistes de réflexion aussi dans le travail qui nous concerne aujourd'hui. J'aimerais d'abord poser un tout petit fondement, alors pas si petit que ça, vu qu'il est biblique, donc c'est du solide. Également, j'aimerais vous présenter un peu une image de la jeunesse d'aujourd'hui. Alors c'est très ambitieux, hein, vous vous rendez bien compte qu'en une heure comme ça, ça va être difficile, même une petite portion d'une heure. J'ai à cœur après de vous présenter un changement de paradigme. Un changement de paradigme, c'est quand on a toujours pensé d'une certaine manière et que finalement il intervient plusieurs changements qui nous amènent tout d'un coup à considérer d'autres manières de penser. Et des fois, on a besoin de vivre certains changements de paradigme sans forcément que ce soit la révolution, que tout s'effondre et qu'on recommence à zéro, mais simplement qu'on puisse changer de perspective. Et il y en a un particulièrement qui me semble intéressant dans la réflexion qu'on mène. Ce qui rejoint les jeunes et ce qui les fait fuir. Peut-être vous êtes expert dans ces questions-là, vous savez, vous avez essayé des choses, ça a marché des fois, ils sont restés, ils sont venus, vous les avez attirés. Puis des fois, vous avez fait des choses, ça vous paraissait très bien, et puis ça les a pas tellement attirés. C'est un peu frustrant des fois. Il y a une part de souffrance aussi dans ce qu'on partage ce matin. Et un petit peu en général, la situation des groupes de jeunes en Suisse romande, simplement pour montrer la diversité aussi qui existe, un peu pour élargir notre pensée par rapport à cette idée qu'on a peut-être qu'il y a un seul modèle de groupe de jeunes ou de manière d'accompagner les jeunes. Et je pense qu'il y a une multitude de pistes qui sont bonnes à suivre. Ça vous va comme programme? Tout ça en une heure? Accrochez-vous, c'est bien. On va démarrer avec le fondement. Fondement du travail. Et je ne mets pas forcément parmi la jeunesse, mais je me dis avec la jeunesse. C'est inclusif, on les prend avec. Hein. Comme pour l'école du dimanche, comme par exemple pour les aspects de la dîme dans le Nouveau Testament, comme par exemple pour le bon choix de votre structure d'église, comme pour le bon fonctionnement en équipe de ministère, eh bien, il n'y a pas de manuel pour le parfait travail avec la jeunesse dans la Bible. Là, une fois de plus, le réflexe ce matin de demander à Dieu toute sa créativité, je pense que c'était le bon. La parole contient énormément de choses qui nous posent, qui nous donnent des fondements, qui nous donnent vraiment des valeurs précieuses pour pouvoir construire un travail efficace dans tout plein de domaines. J'en ai mentionné quelques-uns. Mais la Bible ne dit pas forcément textuellement chaque fois quelles sont les choses et comment les mettre en place dans toutes les circonstances de tous les temps. Ce serait un petit peu difficile, je pense qu'elle serait un peu plus épaisse aussi. La valeur fondatrice du travail avec la jeunesse peut être perçue dans, ce que j'ai envie de dire, la nature de Dieu lui-même, dans son nom. Il a un nom à rallonge. Vous connaissez Armando, Arturo, Daniele, Rodriguez, Maradona. On trouve qu'il a un nom très long. Eh bien, Dieu a un nom plus long. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Le nom éminemment identitaire. Hein. Voilà comment je veux être invoqué de génération en génération. Et j'ai envie de dire ici que Dieu ne considère pas juste une génération active à la fois dans l'Église. Autrement dit, on est en présence de 3 générations, et même 4 nouvellement, vu que les générations se sont un tout petit peu rapprochées, et en plus on vit plus longtemps. Donc dans l'Église, on est maintenant en contact avec 3 à 4 générations d'une même souche, d'une même lignée, hein, d'une même tribu. Une autre parole pourrait être, on est directement sollicité dans le vécu de cette génération, de cette valeur générationnelle. On pourrait se dire, ok, c'est bien, c'est Dieu qui est celui qui est celui qui s'occupe des générations. Donc nous, on va faire notre travail d'église, et puis Dieu, il va s'occuper des générations. Et en fait, il nous y implique dans ce travail. Et vous l'avez remarqué au quotidien, j'imagine, dans vos églises. Tu dois aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te communique aujourd'hui demeureront gravés dans ton cœur. Tu les enseigneras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras assis chez toi et quand tu marcheras le long d'une route, quand tu te coucheras ou quand tu te lèveras. Autrement dit, à peu près tout le long. Tu transmettras toutes ces choses. On est sollicité dans ce qu'on transmet à nos enfants. Alors, vous me direz, mais oui, c'est ce qu'on veut faire, mais eux, ils ne veulent pas forcément. Ça peut arriver, effectivement. On va réfléchir à ça. Alors que ce soit en famille organique ou famille de nom, ou bien également en famille spirituelle, j'introduis le terme ici, on ne peut pas rester passif. On l'a bien remarqué. C'est pour ça aussi, je pense, que cette journée a lieu aujourd'hui. J'ai trouvé l'exemple de Josué assez intéressant. Josué, fils de Noun, assistant de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, « Moïse, mon Seigneur, empêche-les. » Je trouve intéressant, Moïse n'a pas forcément cherché le ministère clé en main, prêt à servir, mais il était d'accord de prendre Josué. Bon, il avait certainement du potentiel, donc il l'a pris à ses côtés rapidement, dans sa jeunesse déjà, et il a investi en lui. Et il a posé énormément de choses en lui, des fois consciemment, des fois simplement en étant un modèle. Et puis, Josué a observé. Je me pose la question si, après l'entrée dans le pays promis, Josué a effectivement fait de même, parce que on constate que de nombreuses oscillations entre justice et idolâtrie dans le royaume de Dieu ont eu lieu pendant 15 générations. Je me pose la question, franchement, comment Josué, lui, a retransmis aussi les choses. Je ne suis pas du tout en train de le mener en accusation, mais il me semble que cet élément fondamental que Moïse a transmis à Josué dans le vécu commun depuis la tendre enfance de Josué, enfin je dis tendre, je ne sais pas s'il était tendre, mais en tout cas depuis l'enfance de Josué, la jeunesse en tout cas, eh bien ça a probablement donné un modèle et il me semble percevoir autour de moi aussi que c'est un modèle qui toujours maintenant est vraiment précieux et fonctionne. Il y a tout une salve de textes excellents qui parlent de la jeunesse. Certains nous défient, d'autres nous éclairent, nous amènent plus loin. Enfin, tous, je pense, le font à leur manière. Le cœur de l'homme est disposé au mal dès sa jeunesse. Ah, cette fois, je comprends. Ecclésiaste, réjouis-toi pendant ton adolescence. Que ton cœur te rende heureux pendant les jours de ta jeunesse. Ézéchiel, je me souviendrai de mon alliance avec toi au temps de ta jeunesse. On le sait, majoritairement, les chrétiens s'engagent avec Jésus pendant leur jeunesse, pendant leur enfance, voire leur jeunesse, au jeune âge adulte en tout cas. Jeunes gens, jeunes filles, jeunes et vieux, chantez sa louange dans les psaumes. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. 1 Timothée. On retrouve un petit peu entre Paul et Timothée cette relation peut-être que Moïse soignait avec Josué. Fuis les passions de la jeunesse, recherche la justice, la foi, l'amour, la paix. Les caractéristiques qui sont marquées là, le côté passionnel de la jeunesse, on le perçoit. Et de même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens. Et on pourrait continuer encore un bon moment avec toute une série de textes qui nous parlent, qui nous éclairent qui est cette jeunesse, dans la perception, comment le Seigneur en parle au travers de ses auteurs. Quand on considère la jeunesse d'aujourd'hui, Ça s'inscrit dans un vécu, dans une histoire. Et cette histoire, elle a commencé fort longtemps, même avant l'Antiquité. Je prends juste cette portion de l'époque dans laquelle on se trouve, Moyen-Âge, Renaissance, temps moderne, temps que l'on appelle post-moderne. Les appellations varient des fois en fonction des sociologues, des anthropologues et autres. Et je peux dire simplement que, peu importe comment ça s'appelle, nos 3 à 4 générations s'inscrivent dans cette période à cheval entre les temps modernes et les temps que l'on peut appeler post-modernes. Certains parlent de temps post-post-moderne, donc on est encore plus loin. Finissons déjà le post-moderne, on verra ce qui se passe après. On puisse faire connaissance avec ces générations. On n'a pas toujours conscience de cet élément-là. J'ai réalisé à plusieurs reprises, quand j'ai eu la possibilité de parler de ces choses, que c'était aidant, très concrètement, dans une église, dans les églises, pour, d'une certaine façon, mieux se comprendre mutuellement. Alors, il faudrait forcément que les tout jeunes puissent le voir aussi pour mieux comprendre les générations précédentes, mais on a peut-être l'occasion de le faire par la suite. Je vous présente Abraham. Ouais, il est beau. On l'appelle Booster ou Builder. C'est le nom sociologique qui a été choisi. Peut-être juste une petite précision, dans la sociologie ou l'anthropologie, on essaie vraiment de considérer des générations dans un contexte sociopolitique, socio-économique. Par exemple, des personnes de l'âge d'Abraham, Abraham, né entre 26 et 45, aux États-Unis, n'aura pas forcément les mêmes caractéristiques qu'un Abraham de chez nous, parce qu'il aura vécu d'autres histoires, il aura fait un cheminement pour en arriver là où il en est maintenant, au travers de circonstances, au travers d'un pays, des pressions peut-être, des fois des ruptures, des fois des conflits, des fois des toutes belles choses aussi. Eh bien, ces variations-là font que les générations ne peuvent pas être étudiées simplement de manière uniforme au niveau mondial. On a besoin d'être contextuel. Et c'est là toute la difficulté de trouver aussi des données valables pour pouvoir étudier, des études valables qui ont été faites sur ces générations. On l'appelle génération après-guerre. Typiquement, ça parle d'un contexte. Hein. Il y a un fort essor économique et on tend à nouveau vers une société d'abondance. Isaac, son fils, est un boomer. Il s'inscrit, on l'appelle aussi les modernes, né entre 46 et 64. Alors, pour les chiffres, hein, vous êtes certainement en train de vous dire « mais moi, je me trouve où ?» et tout ça. On n'est pas à 5-10 années près. Hein. C'est une étude un petit peu de généralité. Certains se retrouvent complètement dans une autre génération. Ce n'est pas grave du tout. Pas besoin forcément de vous inquiéter pour ça. On est dans une phase, on pourrait dire une époque égoïste, où après le travail acharné des pères et des mères qui ont travaillé après la guerre, même si on a été touché d'une certaine façon, pas dirons, de plein fouet par la guerre, quoique les personnes concernées dirait ça peut-être différemment. Eh bien, on se retrouve après ce mouvement de travail fort, un mouvement un peu de relâchement, et puis on est dans une société de surplus. L'immobilier explose, on focalise beaucoup sur la carrière, se former, il y a des grandes réussites, il y a des grands succès qui sont vécus par cette génération-là, qui a de nouveau un terrain, je dirais, une société dans laquelle on peut travailler, on peut évoluer. Le fils de Jacob, alors c'est parmi... Il est peut-être un peu jeune, là, dans la fourchette 83. Il est peut-être né en 83. Je fais partie de cette tranche-là. C'est pour ça que j'ai pas tout à fait sa tête. On appelle ces gens-là des Gen X, génération X, ou, autrement dit, aussi des busters. Busters, c'est ceux qui éclatent les choses, ceux qui cassent de nouveau le cadre. Ils sont nés entre 65 et 83. On est dans une phase d'individualisme. On se centre sur soi. Et les valeurs s'adoucissent progressivement. Jacob a un fils, alors peut-être pas lui directement, hein, mais voilà, Joseph et tous ses frères, on les appelle génération Y. C'est les jeunes principalement que nous avons dans nos groupes de jeunes à l'heure actuelle, dans nos groupes d'ados, dans nos groupes de tout genre, dans nos églises. On les appelle post-modernes ou simplement, on les appelait les tribals. C'est une des caractéristiques fortes de cette génération Y, c'est d'avoir cette tendance à souhaiter se retrouver en petit microcosme, en petite famille aussi. Précédemment, des sociologues l'appelaient génération T, précisément à cause de ce côté tribal. On est dans une phase de meute, plutôt, et puis les valeurs sont les valeurs de groupe, plutôt. C'est les généralités, j'en conviens. Par moment, dans nos milieux chrétiens, on n'arrive pas à comprendre exactement ces éléments ou à les percevoir aussi clairement que je les présente là. Mais sachons simplement tous ensemble qu'on est dans un contexte. Nos enfants baignent au quotidien dans ce que je suis aussi en train de présenter là. Ça peut être intéressant de regarder un petit peu les valeurs de base pour ces quatre générations. On peut prendre un exemple, le focus de vie, l'orientation de vie. Eh bien, pour Abraham, son focus de vie, c'était après la guerre, quand toutes les choses sont à terre, en gros, en tout cas, on a dû être sur réserve pendant pas mal de temps, eh bien, c'est la réalisation. On a besoin de reconstruire les choses. Les boomers, par contre, ont de nouveau du temps, les champs libres, pour s'adonner à de l'aventure, du loisir aussi. Alors, je ne dis pas que c'est des oisifs, au contraire, ils bossent dur, mais ils ne bossent plus pour les mêmes objectifs. Les busters, Gen X, c'est l'expérience qui compte. On ne veut plus juste l'enseignement de front, pour être déjà un petit peu extrapolé par rapport à ce qu'on vit en Église aussi. On ne veut plus juste recevoir le texte comme ça, mais on veut expérimenter les choses. Apparition de choses comme des canicaux, comme des choses typiquement du vécu, où on peut être mis, on peut apprendre ou vivre les choses aussi par l'expérience. Pour les tribals, pour les Gen Y, c'est le focus du microcosme. Le monde est trop grand presque pour l'englober totalement, quoique avec tous les moyens techniques, ils ont peut-être la capacité de faire des très grosses tribus aussi. Pour nous, le fait de voir très large par Internet, des fois j'ai un ami qui est proche de pas mal de personnes, il a 14 ans, et puis il est proche, enfin un ami, fils d'un ami, très proche de pas mal de personnes qui viennent de tous les continents du monde. Il apprécie ça, mais pour lui, c'est devenu sa tribu, c'est devenu son petit microcosme. Finalement, peu importe d'où viennent les gens, le microcosme reste finalement quelque chose de présent. Si on prend l'aspect du moteur de vie, qu'est-ce qui donne l'élan finalement pour aller de l'avant? Eh bien, pour Abraham, c'était avant tout le devoir. Il y avait quelque chose à reconstruire. Les boosters ont pu, eux, viser la performance. Au-delà du fait d'avoir accompli quelque chose par la génération précédente, eh bien, on peut devenir excellent dans ce qu'on est en train de faire. Et souvent, des boomers sont porteurs d'une vision d'excellence aussi dans nos églises. Pour les Gen X, c'est l'engagement. Il faut s'engager. Il y a une solidarité. Il y a quelque chose. On est ouvert sur l'extérieur. On veut participer. On donne notre contribution. On réalise qu'ensemble, on va y arriver. Et le moteur pour les Gen Y, vous l'avez remarqué probablement dans vos églises, dans vos familles, c'est l'envie. J'ai envie de faire ça ou j'ai pas envie de faire ça. Ma fille de 4 ans et demi, déjà, est beaucoup orientée là-dessus. Alors, je ne sais pas si c'est nous qui lui transmettons ça, je ne sais pas d'où elle a ça, mais il y a des réponses du genre « j'ai pas envie ». Ce n'est pas une question d'envie, là. Là, c'est... Maintenant, enfin, voilà, bref, je ne suis pas en train de... Vous avez tous des exemples dans ce domaine. Les objectifs... Il y a un objectif de discipline. On a besoin d'être discipliné pour accomplir cette lourde tâche de la reconstruction d'après-guerre. Pour le boomer, le désir de se réaliser, d'être formé, de réussir dans la vie, de réussir sa carrière. Pour Jacob, ça serait la détente. Et puis, pour Joseph, ça ressemble, c'est l'éclate. Dans les relations principales d'Abraham sont sa famille. Il est orienté sur les gens très proches de lui. On se serre les coudes, on va de l'avant, on est proche dans la famille. La relation préférée d'Isaac, c'est lui-même. Ah, j'exagère un peu, excusez-moi les Isaac parmi nous. Les Isaac, ça fait bien les Isaac parmi nous. Et puis, pour Jacob, c'est les amitiés. Les Jacob, les Gen X, ils ont souvent un carnet d'adresses immense, mais pas très très, ils connaissent pas les gens en profondeur. Cette même chose se retrouve chez les Gen Y, les Gen Y, mais simplement d'une manière plus restreinte et donc plus en profondeur aussi. Au niveau de la sexualité, Abraham, le mot d'ordre très clair, c'était la fidélité. Ou c'est toujours la fidélité. Abraham est avec nous. Pour Isaac, c'est l'Eros, pardon, il n'en prend pas le nom quand même. Mais pour les boomers, le côté de l'attirance érotique, le fait de donner du piment aux choses, on comprend bien cet intérêt-là. Je ne dis pas que tous les boomers parmi nous sont malmenés par l'impureté et autres, ce n'est pas ça. Je dis que c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus large que l'Église, vous avez bien compris. Pour les Gen X, c'est la sincérité. je t'aime plus, je te quitte. Je suis sincère avec toi, hein, franchement, je ne veux pas tricher avec toi, hein, je te quitte, parce que, voilà. Oui, un petit peu. On est tellement sincère, tellement authentique, tellement vrai, qu'il y a même des décisions graves qui sont prises un tout petit peu sous le revers de cette sincérité. Et pour la génération Y, et là, on a encore gardé dans l'Église, je pense, une bonne manière, bonne mesure en tout cas, c'est l'acte sexuel qui est intéressant. C'est coït, si on passe à l'acte. J'ai eu l'occasion d'observer ou d'accompagner pas mal de situations, notamment quand des cycles d'orientation, on fait appel à moi et à d'autres pour accompagner des situations un petit peu délicates dans les écoles où vraiment, c'est l'acte qui apparaît de manière très directe dans les récréations. Et au niveau de la foi, comme caractéristique, comme valeur de fond, on retrouve une forte piété chez nos amis Booster et Builder. Et finalement, c'est le matérialisme qui est comme cet élément dans lequel on le croit le plus dans la génération des boomers. On revient aux choses spirituelles. Hein. C'est un siècle spirituel et les Gen X l'ont compris, mais ce n'est pas forcément une spiritualité uniquement centrée sur Jésus. C'est tout genre de spiritualité. Apparition de syncrétisme, apparition de mélange de tout genre, qui a été encore affiné, qui a été amené encore plus loin, ou même des fois affaibli, de la génération Y sous forme de mysticisme. On croit en des choses, des forces supérieures. Il y a peu de jeunes à l'heure actuelle qui disent qu'il n'y a rien de plus haut, de plus fort que juste l'humain. Mais en même temps, on n'a plus les mots, plus les noms pour décrire de quoi il s'agit. Alors on comprend bien qu'entre Abraham Isaac, entre Isaac et Jacob, entre Jacob et Joseph, eh bien, il y a un certain potentiel d'explosion. Il y a des telles différences dans les motivations de fond, dans les élans de fond, que quand on met ces quatre générations ensemble, eh bien, c'est quelque part pas étonnant qu'on se retrouve par moment, en tout cas, avec des situations pas faciles à gérer. Et puis ça, c'est juste entre les générations, mais on pourrait dire entre les Abraham et les Joseph, c'est encore plus difficile, voyez. Je continue, ça va? Là, je ne sais pas si on va pouvoir lire grand-chose, je suis navré. Chez moi, ça va. quelques indicateurs. Il y a les colonnes avec les quatre générations et on peut regarder tout un tas d'indicateurs qui sont observés ou utilisés en sociologie, notamment le mariage, les amis, là j'ai encore la foi, l'engagement, le moyen de communication, l'accent de vie. Et je ne vais pas forcément tous les prendre, mais peut-être simplement deux. Ici, là, c'est marqué pour arriver au but. Pour arriver au but, eh bien, dans l'esprit d'un booster, ce sera principalement par le travail acharné, par le travail focalisé, et on y va, et on compte pas les heures. Pour un boomer, ce sera peut-être au travers des moyens financiers. On peut acheter les choses, on peut se payer le résultat d'une certaine façon. Le Gen X, dans son fonctionnement, c'est « j'ai pas toutes les compétences », mais si je veux y arriver, je vais aller chercher les compétences qui sont distribuées dans les gens autour de moi. Je sais que je ne peux pas y arriver tout seul, je vais travailler en équipe. Il y a la mise en réseau qui entre en matière. Ce n'est pas étonnant finalement que de plus en plus on trouve des Gen Y, Gen X dans des réseaux évangéliques et des trucs comme ça. Pour le Gen Y ou Gen Y, c'est la mise en tribu. C'est le même principe, mais simplement, on ne s'attend pas forcément à des grosses solutions en dehors de la tribu, mais on sait qu'ensemble, l'équipe qu'on est, si on se serre les coudes, on va s'en sortir. Ici, c'est marqué besoin. Le besoin fort, un indicateur de besoin fort pour les boosters, c'était la sécurité suite à une période d'insécurité massive. Le besoin pour le boomer, c'était le succès. C'est le succès. J'aimerais juste préciser que ces valeurs, ces indicateurs s'atténuent, se modifient, se complètent, mais c'est dans le sens d'une étude plus large. Hein. Gen X, c'est le respect. Un besoin de respect. Et le Gen Y, on n'a pas fini d'observer Gen Y. Hein. Il y a un peu d'incertitude sur ces mots-là, je peux le dire. Il y aura des mises à jour, certainement. C'est, d'après ce que je peux percevoir, la reconnaissance. Un besoin fort de reconnaissance. Alors, on est d'accord, tout le monde a besoin de reconnaissance. Simplement, c'est peut-être l'élément qui ressortirait en première position si on faisait un sondage, ou si on fait, ça a été fait, un sondage dans ce domaine. Quand on regarde un peu l'histoire des deux royaumes, donc l'influence des royaumes spirituels sur l'humanité, au cours du temps. Donc en bleu, le royaume de Dieu, et en orange, le royaume de l'ennemi. Eh bien, on pourrait imaginer quelque chose de ce type-là, avec une fin qu'on connaît. D'accord ? Eh bien, nos quatre générations s'inscrivent dans cette période, dans une portion du temps. Et j'ai presque envie de dire que le niveau d'influence des deux royaumes n'est pas le même pour la génération Y que pour la génération des boosters. Il y a certaines incompréhensions que j'ai pu constater dans les églises qui viennent du fait de ne pas avoir perçu vraiment la différence de la corrosivité ou de l'impact ou de la force que peuvent exercer les royaumes spirituels sur une portion de l'humanité. Vous comprenez ça ? Ouais. Si je reprends maintenant quelques éléments, quelques indicateurs, et là de nouveau navré pour le tableau, j'aimerais juste préciser que tout ce matériel-là est à disposition. Vous pouvez volontiers disposer de ça sans problème. Des fois, c'est bien de prendre quand même des notes pour la discussion qui va suivre aussi, pour savoir les pistes qui peuvent vous aider pour aller directement plus loin. Mais sachez que pour la suite, vous avez l'occasion de pouvoir bénéficier de tout ça, si vous le souhaitez. Là aussi, partie principale d'un culte, prédication, chœur, chanter. Ensuite, pour les boosters, prédication, chœur, adoration. Pour Jenix, il y a beaucoup plus d'expérience. Hein, message court, musique contemporaine, éléments créatifs, expérience. Pour Gen Y, message spontané des fois, message des fois même inspiré. Louange créative, vécu, etc. Il y a une évolution de notre manière de vivre Dieu. Et quand on réfléchit en Église, mais finalement, comment est-ce qu'on peut vivre les choses ensemble, en culte ou autre, de ce que j'ai entendu dans l'introduction aussi, eh bien, c'est des éléments à considérer. Je peux continuer, il y a plusieurs, je vais peut-être juste les mettre tous. On ne va pas pouvoir les aborder tous, mais ils seraient tous peut-être d'intérêt. Je vais simplement focaliser sur deux. Je peux dire lesquels sont marqués là. Il y a la musique au culte, la musique en général, ça permet de comprendre un peu mieux aussi. La foi, comment est-ce qu'on vit la foi, la communauté, perception de la communauté, croissance spirituelle, valeur principale, loyauté face à l'Église, et celle-là, c'est celle que j'aimerais prendre ici. La loyauté face à l'Église, pour un booster, elle est très élevée. Pour lui, le fait de changer d'église, c'est un déchirement, c'est quelque chose de particulièrement douloureux parce que il y a une loyauté, une fidélité énorme, pas seulement parce qu'on s'est habitué à aller quelque part, mais parce qu'au niveau du cœur, il y a une connexion forte qui s'est construite, un lien fort qui est établi. Pour les boosters, il y a une loyauté face à l'église qui est parfois moyenne. Pour les Gen X, rarement présente. Et puis pour les Gen Y, c'est avant tout la loyauté à la tribu, mais pas forcément à l'église locale. On est plus loyal par rapport au groupe, par exemple au groupe d'âge, au groupe de jeunes, groupe d'ados, etc., avant même de penser que je suis loyal à l'église. Si le groupe d'ados était ailleurs, ça poserait aucun problème. Voyez. Le point ici, cette ligne-là, c'est toute la question des institutions, des dénominations. Eh bien, pour le booster, c'est quelque chose d'important parce que ça transmet une identité. Pour le boomer, c'est quelque chose de nécessaire parce qu'elle donne un bon cadre de collaboration. Quand les frontières, entre guillemets, aussi basses, aussi claires, aussi faciles à franchissable soient-elles, sont définies, eh bien, on peut commencer à collaborer. Pour le Gen X, ça sert à quoi ? Quand vous allez à une rencontre de jeunesse à l'ERJ, personne, aucun jeune qui est là s'est posé une fois la question de quelle dénomination était l'autre qui est en train de louer à côté de lui. Il y a quelque chose de... Alors ça nous arrive aussi par moments, hein, quand on est à Transvision ou à un événement interdénominationnel, on n'est pas toujours en train de se dire « Ah, il y a lui avec son étiquette, il y a elle avec son étiquette ». On n'est pas là-dedans non plus. Mais en attendant, pour les jeunes, ça devient très marquant, hein, ce côté où finalement les étiquettes prennent moins de place. Et puis, pour les générations Y, c'est quoi une dénomination? Ce qui compte, c'est plutôt le réseautage. Hein? Ouais. Peut-être le dernier point à ce niveau-là, ici, c'est marqué « participation au culte ». Eh bien, pour le booster, c'est essentiel de pouvoir régulièrement participer à un culte. Et quand il va en vacances, il va trouver un endroit pour pouvoir vivre son culte également quand il est en vacances. Alors, ce serait souhaitable pour toutes les générations, on est d'accord. Hein? C'est pas du tout, je ne dis pas que c'est quelque chose de négatif, au contraire. Pour les boomers, c'est presque régulier. Pour les Gen X, ça dépend un petit peu où il se passe quelque chose, par moment. Et ça s'accentue encore un peu plus avec les Gen Y. C'est là où la tribu peut vivre ses valeurs. Des fois, ces deux points se mélangent un petit peu entre Gen X et Gen Y. On pourrait étudier encore beaucoup d'autres de ces éléments, de ces indicateurs qui nous parlent vraiment des différences entre les générations. Ce n'est pas quelque chose qui doit nous faire peur, mais c'est quelque chose dont on doit être conscient, probablement pour mieux construire ensemble. Sinon, on va tout d'un coup ne pas comprendre pourquoi ces jeunes ils réagissent comme ça. Ou bien pourquoi les jeunes se disent, mais pourquoi ces vieux, en termes honorifiques, je suis allé en Afrique, j'apprécie le vieux de l'Afrique, pourquoi ces vieux, ils n'arrivent pas à comprendre qu'on a besoin de ceci ou cela. Il y a un élément qui est intervenu à plusieurs périodes, dans plusieurs portions de l'histoire, en fonction des endroits. C'est un changement de paradigme qu'on pourrait appeler le changement de paradigme des églises émergentes. Vous avez peut-être entendu parler de cela déjà. Je me permets juste de le glisser ici parce qu'il me semble, dans les réflexions que vous allez pouvoir mener plus loin tout à l'heure aussi, eh bien, ça a son importance. Avant environ 2005, ça dépend des endroits, comme je l'ai dit, un jeune qui arrivait dans la plupart des groupes de jeunes en Suisse romande, eh bien, il était confronté au paradigme suivant, c'est-à-dire à la manière de faire suivante. C'est un groupe de jeunes XY, il n'existe pas pour de vrai. XY, ça pourrait être un nom de groupe de jeunes, n'est-ce pas? Donc, mais là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Un jeune arrive dans ce groupe de jeunes XY, et puis il y est accueilli, il y arrive, et il est confronté, dans un premier temps, à un mot qui est « behave ». « Behave », ça veut dire « comportement ». Il sait déjà qu'il a un certain comportement à adopter s'il va dans un groupe de jeunes chrétiens. C'est-à-dire, je ne vais pas fumer dans le groupe de jeunes chrétiens. Je ne vais pas forcément toujours mettre ma copine sur mes genoux, quoi que ça, enfin bref, ça. Mauvais exemple. Je suis une à deux fois par semaine dans des groupes de jeunes, en Suisse romande et en Suisse allemande aussi. Et c'est vrai que des fois, on est un petit peu bousculé par ce qu'on voit. Une fois qu'on lui a clarifié, qu'on lui a dit quand même clairement, tu sauras ici, on se comporte d'une certaine manière, eh bien, fort heureusement, on parle des choses de la foi. On lui transmet Christ, on lui transmet les valeurs de l'Évangile et on l'amène à rencontrer Jésus. C'est le « believe », hein, le « croire ». Et il peut continuer, et au bout d'un certain temps, il va être dans ce qu'on appelle le « belong », il va appartenir au groupe. Il passe par « behave »,« believe », et il arrive finalement à appartenir au groupe dans un « belong ». Finalement, quand on regarde de plus près, on réalise que le groupe de jeunes, il commence fondamentalement ici, hein, où il y a les traitillés plutôt. Et il y a une certaine barrière qu'il s'agit de franchir, un certain seuil qu'il s'agit de franchir dans certains groupes de jeunes. Je sais que c'est encore en place dans pas mal d'endroits. J'ai grandi dans un groupe de jeunes comme ça. J'ai dirigé un groupe de jeunes pendant 10 années avec ce paradigme-là. Ça ne nous empêchait pas d'avoir des personnes qui se tournent vers Jésus. Donc, c'est pas du tout, ça ne veut pas dire qu'on était complètement à côté de la plaque. Néanmoins, il y a un changement de paradigme qui est en train de se produire parce que, une observation intéressante, peut-être encore, j'ai oublié de préciser ça. Excusez-moi, je suis un Gen X, j'ai réseau. Tac. Cette flèche représente le niveau de péché dans un groupe de jeunes. Il n'y a pas un indicateur dans les groupes de jeunes où on voit l'aiguille comme ça, le niveau de péché où on en est, tout ça. Mais c'est quand même quelque chose qu'on pourrait éventuellement mesurer. Ici, on voit, on laisse le péché dehors. C'est-à-dire, on minimise déjà. Alors, ça ne veut pas dire que les péchés cachés ne sont pas là, on est d'accord. Hein, mais en tout cas, tout ce qui est visible, une bonne proportion des péchés, on va essayer de les laisser dehors, filtrés par cette barrière qu'on a fixée là. Et finalement, on se retrouve dans un groupe de jeunes, finalement, avec quelque chose de relativement sécurisé, quelque chose de propre. Et c'est probablement une des raisons aussi pour lesquelles ce genre de paradigme a pu vraiment s'installer d'une manière très profonde dans nos groupes de jeunes, dans nos églises aussi parfois. La situation évolue dans un grand nombre de groupes de jeunes. Il y a un changement de paradigme qui s'est produit et c'est le suivant. Regardez bien. Vous avez vu? Je le refais une fois. Hein. C'est beau, hein? Ça, c'est l'avantage de la technique. Hein. Ça permet de... Enfin, bref. Ce même jeune arrive dans ce groupe de jeunes et puis, première chose qu'il rencontre, première chose qu'il perçoit, c'est que, hey, mec, tu fais partie de nous. T'es un des nôtres. Bienvenue chez toi. On sait, tu fumes, on sait, tu as 3 copines à la fois, on sait, tu voles, on sait, etc. Mais sache que on t'accueille comme tu es. Bon. On lui parle de la foi, heureusement, et ça se passe dans les groupes de jeunes. Et puis, son comportement est changé parce qu'il a les outils dans sa vie, les outils spirituels aussi dans sa vie, pour faire le travail de nettoyage qui s'impose dans certains domaines de sa vie. On réalise que le bilan fait un peu le rôle de savon. Hein. Il glisse littéralement dans le groupe de jeunes. Parce qu'il y a ce besoin d'appartenance, ce besoin d'être reconnu, ce besoin d'être accueilli qui se manifeste très fort. Et finalement, quand je mesure le niveau de péché dans le groupe de jeunes, cet indicateur, et c'est un peu le revers, je pourrais dire, de ce changement de paradigme, ça reste très longtemps rouge, hein, beaucoup plus longtemps qu'avant. Ça veut dire que le péché est accueilli dans le groupe de jeunes avec le jeune. Plutôt, le jeune est accueilli dans le groupe de jeunes et avec lui, dans ses valises, il prend tout son bazar. Et au fur et à mesure, on ouvre ses valises et on commence à filtrer un petit peu les choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les responsables de ces groupes de jeunes ont besoin de tenir encore mieux la route. Parce que tout d'un coup, ils vont être en contact avec des choses qui d'habitude restaient dehors. Et donc maintenant, on a ces choses qui entrent dans l'église, dans le groupe de jeunes, et on doit composer avec. Et je veux juste préciser, simplement ce changement de paradigme, s'il a été vécu dans vos églises ou pas, peut-être c'est un sujet de discussion qui serait intéressant d'aborder, ça implique dans tous les cas que les responsables, eh bien, qu'ils soient très au clair dans leur vie aussi. C'est-à-dire le niveau de sanctification, de préparation, de caractère dans la vie du jeune leader, c'est quelque chose de vraiment, vraiment essentiel. Ce qui les rejoint et ce qui les fait fuir. On a étudié ensemble un tout petit peu des éléments du profil générationnel de ces jeunes actuels. Et on comprend, à tort ou à raison, donc ce n'est pas du tout, il n'y a pas un jugement de valeur là-dessus, mais on constate qu'ils sont relationnels. On constate qu'ils sont assoiffés d'authenticité. Alors, il y a certainement des exceptions toujours. Hein. Là, je parle vraiment aussi d'une généralité. Ils sont accros aux nouvelles choses. Ils n'ont pas peur de la nouveauté, alors que nous, souvent, on est dérangés parce que ça allait bien comme ça, non? Ils sont orientés sur le plaisir, ce moteur de l'envie, le fait de vivre des choses fortes sur le plan émotionnel, sur le plan de l'expérience. Ils sont menacés par l'idée de rester entre eux, j'ai envie de dire. Ils sont attirés par des lieux à la mode. On a vu ça, hein, le tourisme ecclésial, il n'est pas juste pour les adultes, il est aussi pour les plus jeunes. On a vu ça dans l'apparition aussi de plusieurs différents types d'églises et qui ont finalement incité, ou en tout cas fait envie, parce que c'est justement l'élément avec lequel on arriverait à connecter, on fait envie à certains jeunes d'aller voir si l'herbe n'était pas plus verte encore à côté. Et ils sont surtout libres de loyauté à des entités hors tribu. On comprend qu'on aura besoin de travailler, de composer avec cet aspect tribal, hein. Et ils sont sensibles à l'appartenance tribale et ils sont très à l'aise dans le virtuel. Tous ces éléments, il y a d'autres choses qu'on pourrait encore citer, mais tous ces éléments-là font que nos propositions, nos offres vont plutôt les attirer ou plutôt les faire fuir. Je suis conscient que je suis assez rapide ce matin. Ça va ? Alors, comment est-ce qu'on peut les rejoindre? J'ai fait l'observation assez souvent qu'une des clés principales, et je ne dis pas que c'est la clé, mais une des clés principales qui ne balaye pas tout ça, mais qui atténue relativement fortement les priorités de ces caractéristiques, eh bien, c'est le fait d'éveiller la compréhension qu'on fait partie d'une famille spirituelle. Je ne peux pas dire tout d'un coup à mes parents... Eh bien, ce matin, je me suis levé et puis je me suis dit, je ne fais plus partie de votre famille. Il y a quelque chose, il y a une filialité, il y a quelque chose de fort qui est posé parce qu'à un moment donné, alors je ne l'ai pas choisi, ma famille organique, on est d'accord. Et ça, c'est peut-être aussi le côté important quand on choisit une famille spirituelle et après de réaliser qu'il y a cette même filialité spirituelle quelque part qu'il s'agit de respecter. Et moi, j'ai constaté que des jeunes qui réalisent qu'ils ont une famille spirituelle à laquelle ils appartiennent, pour laquelle ils comptent, pour laquelle ils ont un apport réel, une prise en compte réelle aussi, eh bien, peu importe les formes, ils se sentent accueillis et proches et ils restent fidèles. J'ai constaté que des jeunes posaient des questions à l'Église et l'Église répondait. Mais j'ai constaté aussi que le jeune, souvent, pose des questions existentielles, des choses identitaires presque dans l'être. Et j'ai vu souvent, et j'ai donné moi-même, des réponses plutôt dans la couche ministérielle. J'explique ça un petit peu. Le besoin des jeunes, souvent non verbal. C'est pas forcément exprimé, bien réfléchi, bien posé, bien synthétique comme ça. Mais c'est par exemple, j'ai besoin de repères dans ma vie. Alors, ça sera peut-être pas formulé comme ça. Ça sera juste, il fait plein de combines bizarres, il est insupportable avec face aux parents, etc. Ce que ça peut vouloir dire, et ça le dit aussi à l'Église, dans la famille y comprise, famille organique y comprise, c'est j'ai besoin de repères dans ma vie. Ou par exemple, est-ce que tu peux m'écouter? J'ai de grosses questions. Ou je me sens incapable de répondre aux attentes que la société actuelle me propose. Et puis, c'est la crise avec mes parents, par exemple. Alors une fois de plus, c'est pas toujours verbalisé. On souhaiterait que ce soit plus facile, ça serait plus facile si toujours c'était verbalisé. Mais on voit que c'est des interpellations, des questions qui viennent finalement de la couche relationnelle. C'est ces questions-là. Et on aurait tendance, c'est le risque que j'observais aussi, et peut-être vous pouvez vous positionner par rapport à ça, c'est peut-être pas du tout le cas pour votre église, et tant mieux. Eh bien, les réponses qu'on peut leur donner par moment, c'est « viens donner un coup de main au culte ». Aide-nous à mettre un nouveau groupe de louanges sur pied. Mais oui, c'est classe la louange. Et puis, ils aiment bien la louange. Donc, voilà. Il nous manque quelqu'un pour la sono. Tu viens. Il paraît que tu fréquentes avec une nouvelle copine non croyante. C'est des questions. Enfin, je caricature un tantinet. Vous avez remarqué ça. Mais on a tendance, des fois, à répondre par du ministériel à du relationnel. Et j'aimerais dire que le jeune, génération Y, ne parle pas ce langage ministériel de prime abord. Il parle d'abord le langage relationnel. Et si on aura répondu à une bonne portion de ces questions-là, à notre manière, du mieux qu'on peut, on sait qu'on n'a pas non plus des solutions à tout, eh bien, probablement que même dans ces éléments-là, on va retrouver le jeune mobilisé, enthousiaste, motivé pour tirer avec et vivre la vie d'église très concrètement aussi. Ça va ? Je fais une petite liste non exhaustive de ce qui peut les rejoindre, de ce qui les fait fuir. Ce qui peut les rejoindre, c'est le côté de l'expérience authentique de l'Église. Ce n'est que dans la théorie, que dans l'enseignement frontal, par exemple. On n'aura pas forcément tous les jeunes qui vont apprécier ça à la longue. C'est des temps en groupe plus petit, qui ont cette caractéristique un peu plus relationnelle. Mais c'est aussi, de temps en temps, un bain de foule flashy qui en jette. Avec sono, avec light, avec tout ce qui va avec la foule, avec la masse, avec tout ce qu'il faut. Il y a ces deux aspects, hein, le petit groupe, mais aussi de temps en temps le bain de foule, pour vivre le côté plus mouvement ou communautaire. Le christianisme comme un style de vie au quotidien, beaucoup de jeunes sont interpellés par cette réalité-là. J'ai pas envie d'être chrétien, juste quand je suis avec des chrétiens, j'ai envie d'être chrétien quand je fais mon sport, quand je suis en train d'étudier, quand je suis dans le train, quand je me déplace, enfin voilà. Une ouverture aux nouveautés, que ce soit dans les technologies, dans les moyens techniques, mais aussi dans les sonorités. Et ça nous défie, forcément. Quand on se rappelle un petit peu les caractéristiques générationnelles que j'ai présentées tout à l'heure, automatiquement, on aura des clashs dans ce domaine-là. Hein. Style de louange, volume de la louange, toutes ces choses-là, c'est des sujets que vous connaissez certainement dans vos églises, peut-être même dans vos familles. En tout cas, mes parents s'en souviennent aussi. Ce qui les rejoint aussi, c'est des modèles qui sont motivants et puis respectueux des différences. Ils ont besoin de repères, ils ont besoin de pères et de repères. Des personnes qui les inspirent, qui leur font envie. C'est des fois nous, hein. Également des structures où ils peuvent commencer à servir avec leurs dons. Peut-être leurs dons ne sont pas typiquement dans l'organigramme d'une église. Mais comment est-ce qu'on peut, à ce moment-là, accueillir leurs dons? Peut-être en s'ouvrant à peut-être des nouvelles formes, des nouveaux groupes, des nouveaux éléments qui peuvent se mettre en place dans nos structures aussi. Et des structures qui permettent de vivre les valeurs qui ont été choisies. C'est souvent favorable d'avoir un lot de valeurs qui est déterminé. Je ne vais pas entrer plus dans les détails ici, mais les valeurs donnent des repères, donnent des éléments identitaires aussi, et finalement déterminent le cadre dans lequel on veut vivre les choses ou ce qu'on a envie de vivre. Également une structure où ils ont la possibilité d'ajouter leur grain de sel, où ils peuvent participer à la vie de l'Église. Et pour terminer, et puis il y en aurait certainement d'autres, c'est une ouverture et un réseautage avec d'autres familles spirituelles. C'est dans leurs caractéristiques, hein, si on se rappelle de cela. Les éléments qui peuvent les faire fuir, j'ai envie de mentionner quelques-uns, c'est une vie d'église uniquement concentrée sur le culte. Beaucoup de jeunes ont réalisé que le culte est un moment clé, un moment très important sur le plan communautaire, mais qu'il y avait en dehors du culte beaucoup de journées, beaucoup de temps qui pourraient être vraiment investis aussi en tant que vie d'église. Ce qui les fait fuir aussi, c'est d'être en permanence noyé dans la masse. d'être anonyme, d'être invisible. C'est difficile d'être invisible pour des jeunes. Ce qui le fait fuir également, c'est un dynamisme avant tout doctoral et pastoral. Il y a une ouverture à vivre une dynamique beaucoup plus large sur le plan des couleurs ministérielles. Également, ce qui peut faire fuir, c'est du fait ce que je dis et pas ce que je fais. Beaucoup de témoignages dans l'accompagnement de jeunes qui expriment comme leurs parents sont des modèles quand ils sont à l'église et comme ils changent dès qu'ils rentrent à la maison. Exclusivement du Gem 1 à toutes les réunions. Pardon, du vitrail à toutes les réunions. Non, c'est des bénédictions. Ces chants sont réellement une bénédiction, on le sait. Peu importe comment on les joue, finalement, vous avez l'expérience aussi. Vous êtes à l'aise, certainement aussi, le groupe Louange, de reprendre des chants beaucoup plus anciens, mais qui ont des paroles qui nous amènent plus loin, etc. Ce n'est pas la question ici. Mais pour des jeunes, cette réflexion-là est encore juste inaccessible, souvent. Donc, on veut les derniers chants, Gem 4, si possible, ou même plus du Gem, parce que c'est plus à la mode. Enfin, j'en sais rien. Il y a plein de réflexions comme ça qu'on entend partout. Voilà. Ils sont traduits, mal traduits en plus. Bon, bref. Excusez-moi, je divague. Ce qui les fait fuir aussi, c'est une église ou un groupe où il faut servir pour exister, où il faut faire pour finalement être accepté réellement comme faisant partie. Ça fait un petit peu à voir avec ce changement de paradigme aussi que j'ai mentionné tout à l'heure. La religiosité, le contrôle, la domination, il y a comme une espèce de détecteur de religiosité des fois chez certains jeunes, et ils deviennent religieusement anti-religieux des fois. Ce qui fait fuir également, c'est, d'après mes observations, un esprit de clocher ou d'être trop focalisé sur une couleur dénominationnelle. On a vu que l'importance était éminente ou évidente pour les générations précédentes et l'intérêt est beaucoup moindre pour certains jeunes. Je veux juste préciser qu'il y a des modifications à ce niveau-là aussi. Par exemple, j'ai l'occasion de coordonner un peu la Factory, cette école de leadership à Bienne. Et on a des étudiants de 8 dénominations différentes qui sont là. Et il y a des jeunes de l'Église réformée, des jeunes des Églises apostoliques, la FRE, EDICF, etc. Et pendant pas mal de temps, les jeunes de toutes les dénominations venaient nous voir en disant « Mais ces jeunes d'ICF, ils sont vraiment pénibles, parce qu'ils n'arrêtent pas de parler de leur Église. » Apparemment, c'est peut-être une exception à la règle ici, le côté dénominationnel, le côté identitaire de leur Église avait tellement de poids qu'ils n'arrivaient pas à s'empêcher d'en parler tout le long, et de montrer des clips, et de montrer des enseignements, c'était très fort. Et puis, ils nous ont demandé de faire taire ces jeunes d'ICF. Et puis, on a réfléchi un moment avec Christophe Conrad, le directeur de l'école, et on a décidé de leur poser simplement la question, qu'est-ce qui fait que toi, finalement, tu n'es pas aussi fier de ton église quand tu en parles, quand tu es avec tes amis? Et au début, il y a un peu un silence bizarre, un peu gêné comme ça, mais ils ont joué le jeu, ils ont fait cette réflexion, et je dois dire pour plusieurs, ça les a amenés à mieux comprendre, à essayer de mieux comprendre finalement leurs racines, leur identité ecclésiale, dénominationnelle. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un élément qui était évacué relativement complètement au démarrage, et il a fallu comme un moment particulier là, où plusieurs se sont de nouveau posé la question. Et j'aimerais dire que c'était une grande richesse de partage qui s'en est suivie. C'est pas toujours facile non plus avec ces ICF, mais comme c'est pas toujours facile non plus avec ces jeunes apostos et autres. Pour ne pas dire ceux du réveil. Oh, je suis un trouillard, vous avez remarqué. Non. Ceux qui pratiquent l'analyse transactionnelle, vous connaissez aussi peut-être ces éléments parents normatifs ou bien parents nourriciers. Eh bien, si on est trop là-dedans, pour les jeunes, ça devient également très lourd. Vous connaissez peut-être ce principe quand il y a le côté parental, le côté parent, le côté adulte, le côté enfant. Eh bien, s'il y a une communication qui s'établit de parent à enfant, l'enfant, il va avoir de la peine à monter à l'adulte pour répondre en adulte, d'adulte à adulte, voyez. Donc l'enfant, il va, c'est pas vraiment un enfant, c'est des adultes aussi en face, mais c'est l'aspect enfant, eh bien, il va répondre de la même manière. Donc on aura des réponses qui seront de type rebelle, de type, ou alors de type soumis dans certaines situations. Mais probablement que le souhait de beaucoup de jeunes, c'est de ne pas forcément être sous l'influence permanente de parents normatifs ou de parents nourriciers. Juste quelques éléments, peut-être que certains font mouche dans votre vécu, d'autres vous dites non, ça c'est bon, on a réglé, ou bien même ça n'a rien à voir dans mon contexte, pas de problème. Et probablement que vous avez une liste encore plus longue pour ces éléments-là. Ce que j'ai constaté, c'est que la forme devient de plus en plus secondaire du moment que le jeune se sent pleinement à sa place dans sa famille. famille spirituelle, où il s'approprie, où il peut dire c'est mon nom, c'est moi, c'est les miens. Il aura même de la peine à quitter cette famille d'ailleurs. On prête beaucoup d'importance à la forme. Dans beaucoup d'églises, on travaille énormément sur la forme. Et j'ai eu l'occasion de visiter des églises où je peux dire la forme n'était absolument pas un génie grec, mais il y avait des jeunes qui étaient là et qui avaient énormément de plaisir à être là, parce qu'ils avaient justement saisi que c'était chez eux. Pour terminer, j'aimerais vous donner un deux petits éléments concernant la situation des groupes de jeunes en Suisse romande. J'avais fait cette première réflexion en 2008, aussi en contact avec la pastorale de la Frée d'ailleurs, et puis j'ai mis un petit peu à jour ces choses, mais il y a relativement peu de choses qui ont changé. Quand on prend la Suisse romande, dans son ensemble, on pourrait considérer la jeunesse chrétienne de Suisse romande de manière globale. Et dans ce réseau immense, qui n'est pas forcément toujours connecté, tout le monde ne se connaît pas non plus entre jeunes, il y a plusieurs milliers de jeunes qui sont là, d'horizons très différents, eh bien, on trouve notamment un des réseaux qui est relativement bien représenté, qui a dépassé tous les scores cette année, on pourrait dire, c'est le réseau jeunesse qui se rassemble autour de la rencontre de jeunesse, anciennement du Landron, nouvellement de Bulle. On a passé les 2000 jeunes qui étaient là, sur le week-end. Alors, il n'y avait pas que des jeunes, on est d'accord, mais j'y étais. Un autre réseau pourrait être la commission jeunesse, la Frée. Il y a également la jeunesse de l'armée du salut, ça va plus loin, ça va en Suisse allemande aussi, même au niveau international, ça va plus loin. Également, par exemple, la jeunesse mennonite, elle est aussi à cheval sur les régions linguistiques et culturelles. Il y a d'autres raisons, comme par exemple JAB, la jeunesse de l'action biblique, on pourrait en citer encore 6 ou 7 autres, mais souvent qui ont un petit peu moins de poids dans nos contacts qu'on a. Il y a également des réseaux parfaitement non fédérés, des personnes ou des groupes de jeunes, des équipes qui sont non fédérées, souvent plus petites d'ailleurs. Il y a des choses qui relient plusieurs réseaux, comme par exemple RJ Network, le réseau d'information, de connexion de la rencontre de jeunesse. Et puis, il y a aussi d'autres choses qui sont à disposition de tous, comme par exemple le groupe de travail pour la jeunesse au réseau évangélique. Il n'existe pas encore, mais bientôt. La Factory, PowerCon, GBU, etc., qui sont vraiment, qui connectent de manière beaucoup plus large encore dans tous ces domaines-là, dans tous ces groupes-là. En fait, c'est un patchwork assez considérable. On oublie des fois qu'il y en a d'autres à côté de nous, d'où l'idée aussi l'importance de pouvoir donner une vue d'ensemble. La situation des groupes de jeunes en Suisse romande, eh bien, on y voit différents types de groupes de jeunes. Il y a par exemple des groupes de jeunes d'églises locales qui sont principalement gérés par des jeunes. Gloop, NSL, Skylab, Plugin, 109, ADSL, Café, CFF. C'est possible qu'entre hier et aujourd'hui, un groupe se soit arrêté. Donc, s'il y a un nom qui est plus d'actualité, faites-le savoir. Il y a également des groupes qui regroupent plusieurs églises, un peu des groupes de réseautage. C'est soit régional, c'est soit dénominationnel. Il y a par exemple les interjeunes qu'on connaît. Le pape, le groupe de jeunes du pape de Neuchâtel, c'est également un travail interdénominationnel. Il y a 4 ou 5 églises qui participent, etc. Il y a des groupes de jeunes qui sont sous la responsabilité d'un animateur. Il y a des groupes réformés, certains groupes d'affrées, ou principalement les groupes d'affrées, les groupes également de l'église du Réveil. Toutes ces dénominations qui ont justement libéré des personnes dans des postes d'animateurs jeunesse. Il y a des groupes thématiques aussi, des groupes étudiantins, comme les GBU, les Poker Crew, qui ont de nouveau à peu près disparu. Il en reste 3 à l'heure actuelle, il y en avait à peu près une trentaine. C'est des jeunes qui se rencontraient pour jouer au poker, pour annoncer l'évangile. Il y a les Antizones, les XXL et d'autres. Il y a des groupes unigénérationnels de micro, de méga-églises. Par exemple, les mini-groupes d'ICF, il y a également les bases au Gospel Center, il y a également des atomes, les églises de maison atomes qui sont plutôt orientées jeunesse, etc. Il y a des groupes de réseaux indépendants, comme par exemple le réseau Cactus. Ils ont des rencontres plus ou moins formelles, souvent d'ailleurs dans des lieux publics, dans des bars ou autres. Et il y a également les Jesus Freaks qui se rencontrent aussi, qui se constituent par moments à certains endroits et puis ensuite à d'autres moments à d'autres endroits, mais qui ne sont pas vraiment fédérés en tant que tels, pas connectés à des églises par ailleurs. Il y a des groupes de 20-35 ans. C'est une préoccupation qui est de plus en plus apparue ces derniers temps où on réalisait qu'il y avait une espèce de fossé après le groupe de jeunes où on avait de la peine à accueillir les jeunes dans nos églises. Et finalement, on a fait du travail pour développer des plateformes pour accueillir les 20-35 ans. Et là aussi, il y a par exemple X-Man, le pluriel, Connect, il y a les 20-30 ans de la Ligue, etc. Il y a plusieurs projets qui sont là. Et pour terminer, j'ai envie de dire aussi des groupes de jeunes devenus églises à part entière, qui ont fait le saut, qui se sentaient tellement bien entre eux que finalement, non, enfin bref, les J'y crois, Skyline et d'autres. Peut-être j'ai oublié une catégorie, il me semble que c'est relativement complet. Le nombre total des groupes de jeunes en Suisse romande reste quasiment inchangé depuis les 10 dernières années. Mais 12 dernières années. Par contre, le nombre de groupes a tendance à augmenter. Par contre, on peut dire aussi que la taille moyenne diminue. Probablement aussi en lien avec cette idée d'être plus relationnel, quoique on n'est jamais mécontent quand tout d'un coup le groupe de jeunes grandit massivement, hein, j'imagine. Pour réflexion, puis là je ne suis pas du tout dans un jugement, en Suisse allemande, la mise en place d'animateurs jeunesse a conduit à la disparition de plus de la moitié des groupes de jeunes. J'aimerais préciser la mise en place maladroite d'animateurs jeunesse a conduit à la disparition de plus de la moitié des groupes de jeunes. Au Canada, encore pire. Au Canada, c'est 2/3 des groupes de jeunes qui ont disparu parce que au moment où on salarie des animateurs pour faire le travail, ces animateurs prennent ça très à cœur, alors qu'avant, on mobilisait les jeunes de l'église pour ensemble travailler. Et un animateur, on l'a bien compris, s'il fait bien son travail, il arrive à connecter la jeunesse de l'église pour finalement l'accompagner, la coacher pour que le travail se fasse, pas seulement par l'animateur, mais réellement par l'église aussi. On a bien compris ça. Mais là, la source, c'est Matthias Spies, c'est le responsable de l'Alliance évangélique suisse jeunesse. Une des clés pour plus de groupes, il me semble, et finalement plus de futurs cadres dans nos églises, hein, on en a besoin, il y a une petite crise des ministères qui est quand même là, c'est de pouvoir former davantage de personnes capables de prendre des responsabilités. Et ça peut commencer très tôt. C'est une des pistes que j'aimerais aussi vous laisser pour les réflexions qui vont suivre. Voilà, c'était un petit peu le parcours le petit tour du proprio sur le plan de la jeunesse. Conscient qu'il y a des compléments à ajouter, des choses que vous savez qui vont enrichir encore les discussions. Et je reste aussi à disposition tout le long de cette journée pour poursuivre cette réflexion avec vous. Je vous remercie pour votre attention. Merci.